On est en train de continuer la petite série sur la recherche de Dieu. Comment est-ce qu'il est important que tous les chrétiens soient à la recherche de Dieu, pas juste le dimanche matin, ni le mercredi, toute la semaine. On se lève, on ouvre nos yeux. Il faut déjà être en éveil, spirituellement parlant, pour chercher la face de Dieu. On a besoin, comme on l'a chanté tantôt, on a besoin du feu de Dieu. On a besoin de ses directions. On a besoin de l'œuvre qui vient de faire l'œuvre en nous, qui vient nous équiper, qui nous révèle sa pensée. Il y a plein de choses qu'on a besoin de Dieu. Un chrétien n'a pas le droit de s'endormir. Quand on parle d'être endormi spirituellement, c'est d'arrêter de prier, d'arrêter d'être à l'écoute ou arrêter d'être attentif à la présence de Dieu et au mouvement de Dieu. Dieu va agir dans nos vies. Il y a des choses qu'il veut faire, mais il faut qu'on soit là. Si l'Esprit de Dieu, il se révèle puis il nous montre quelque chose, mais il faut être attentif puis il faut embarquer dans le mouvement de Dieu. Mais pour ça, il faut être à la recherche de Dieu. C'est pas évident. Il y a des gens, des fois, qui ont perdu le fil. Ils savent même plus, puis ils vivent comme une religion, là. Puis c'est un rituel qu'ils font. Ils se lèvent, ils s'en vont travailler. Ils vont à l'église le mercredi, le dimanche, en retournent. Puis ils n'ont même pas pensé à Dieu de la semaine. C'est pas une critique, mais c'est un fait que ça l'arrive. On a perdu le contact, le fil conducteur. On a perdu d'être à l'écoute de Dieu, puis d'entendre sa voix. Quand il nous parle, quand on lit la parole, on sent qu'il nous montre des affaires. Il y a quelque chose qui se développe dans la vie d'un chrétien, c'est cette relation. C'est une vraie relation avec Dieu. Puis on a vu dernièrement, dans les trois derniers messages, comme quoi qu'on est en guerre présentement. Les chrétiens, pas juste les chrétiens, c'est l'ensemble de l'humanité qui est en guerre, mais les gens du monde ne le savent pas. Puis les gens acceptent tout ce qui se présente devant eux. Puis sans le savoir, ils tombent dans les pièges de leur chair, du monde et du diable. Les chrétiens, quand ils ont donné leur vie au Seigneur, parce que c'est là que ça commence, tu commences, tu acceptes Jésus, tu reconnais ton impuissance, tu reconnais que t'es pécheur, tu sais que tu peux pas te sauver toi-même, tu sais que Jésus est mort sur la croix pour te pardonner, puis qu'il veut te donner cette nouvelle chance, une deuxième occasion de repartir à zéro, comme une vie flambant neuve. Il te pardonne tous tes péchés, puis en plus de ça, il te donne le Saint-Esprit pour commencer cette nouvelle vie-là. Puis là, il te conduit à chaque jour parce que t'es repentant, t'as voulu changer de vie. Là, il te dit, bon, ben là, va par là, fais pas ça, touche pas à ça, puis fais ça. Puis là, il veut t'amener à ce que tu puisses te fortifier en lui. Puis là, on réalise qu'on est en guerre. On réalise qu'on... Wow, ça va donc bien mal depuis... Il y a des affaires qui vont bien, parce que quand tu as donné ta vie au Seigneur, il a commencé à te changer. Tu es heureux de ça, mais là, tu commences à t'apercevoir qu'il y a des chicanes dans ta famille, des chicanes qui n'étaient pas là avant, c'est à cause que tu as accepté Jésus. Tu parles de ta foi, puis les gens, ça les dérange. Là, tu commences à être dans le conflit. Avec les gens du monde, tu es en conflit aussi. « Wow, mon corps, il veut m'amener où ce que Dieu veut pas que j'aille. » Là, tu réalises que tu es en combat aussi dans ton corps, puis tu réalises que tu as des tentations que tu vivais pas avant. C'est l'ennemi qui vient, puis il te tente, puis il essaie de te faire tomber dans le péché. On est en guerre. On est en guerre, frère et sœur. On est dans le combat. Le diable, le monde et notre chair sont nos pires ennemis. Mais comment qu'on peut combattre pour garder la victoire? C'est important, frères et sœurs, ce qu'on va voir aujourd'hui. On le sait qu'il y a un combat, puis on a vu dans chacun des combats que Jésus avait déjà donné la solution. Il a vaincu le diable, il a vaincu le monde, puis il a payé la dette de nos péchés, puis il nous a donné cette nouvelle nature qui fait mourir notre vieil homme. On a tout est accompli en Jésus. Mais comment je peux faire pour l'intégrer à ma vie, pour que je vive en permanence dans cette grâce-là, puis dans ce renouvellement-là que Dieu veut faire en moi? Comment marcher dans la victoire, puis persévérer dans le chemin resserré? Dans ce verset-là, dans Matthieu 7, 13 et 14, ça nous dit d'entrer par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin, un chemin spacieux qui mène à la perdition. La perdition, c'est que tu es perdu. Pour l'éternité, c'est une perdition éternelle d'être séparé de Dieu éternellement, d'être jeté dans un étang de feu. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, puis il y en a beaucoup qui rentrent par là. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. On a à s'apercevoir, frères et sœurs, ben nous, en tant que chrétiens, on le su, qu'il y avait deux portes. On le sait qu'il y a deux portes. Qui ne savait pas qu'il y avait deux portes? Puis on le sait que la porte étroite, c'est Jésus. Faut que tu passes à Jésus si tu veux t'en aller dans le chemin resserré qui mène à la vie. Faut que tu commences par passer dans la porte. T'acceptes Jésus dans ta vie. On le sait tous qu'il y en a deux portes. Mais après ça, en arrière des portes, il y a un chemin. C'est le chemin resserré. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, le mot grec qu'il y a là pour le mot resserré? Resserré, pressé, être affligé, exposé à des tribulations, malheureux, persécuté. C'est ça le sens du mot. C'est un chemin de persécution, de tribulation, de malheur, être affligé, pressé, écrasé, opprimé. C'est tous des synonymes qui sont dans ce mot-là. Jésus, quand il a parlé du chemin resserré, il a parlé d'un chemin qui était difficile. Contrairement à certains prédicateurs qui disent « Accepte Jésus, tout va être parfait. » C'est faux. Il n'y a rien. Oui, tu vas être pardonné. Oui, tu vas avoir la joie de ton salut. Mais tu commences à rentrer dans le chemin resserré. Un chemin de tribulation, d'épreuve, de souffrance. Il y a du malheur, il y a du bonheur, il y a de la joie. Tu peux avoir des bons moments, tu vas être béni, il y a des guérisons, des restaurations. Mais à cause qu'on est en guerre, c'est là le principal point. Pourquoi qu'on a ces tribulations-là? C'est à cause qu'on est en guerre. Y a-t-il un party de famille? Un party dans une guerre. Est-ce que tout le monde qui sont au front puis qui entendent les obus passer puis des balles qui sifflent puis sont tous couchés là, ça fait peut-être un mois qu'ils ont le même linge sur le dos puis qu'ils ont aucun, ils mangent qu'est-ce qu'ils peuvent là, ils ont de la poudre, des rations en pack là, des ration pack qui disent, des paquets de rations secs, puis ça fait un mois qu'ils sont dans une tranchée puis ils ont pas de place pour aller aux toilettes. C'est vraiment difficile, la guerre, les balles sifflent, des corps étendus à terre de tes amis qui sont morts. Il n'y a aucun plaisir là. Mais la vie chrétienne, c'est un peu ça aussi. La guerre, les balles, les obus, les problèmes, les combats, les efforts à mettre pour combattre. Mais ça vaut la peine. Amen. Gloire à Dieu. Dans ce chemin-là qui n'est pas facile, il est, je veux que vous le sachiez tout de suite, là, il est possible d'être sûr qu'on a la victoire. On est déjà dans une guerre gagnée d'avance, même si c'est pas facile. Mais comment je vais faire pour me garder premièrement loin de toutes les attaques que je vais subir, à l'épreuve des tentations, puis des pièges du diable, puis des pièges de ce monde, pour essayer de me faire tomber? Comment je vais faire pour être capable de persévérer dans le chemin resserré jusqu'à temps que je sois rendu au bout? Il faut se garder dans sa présence. Il y a plein de points de même. La première des choses qu'il faut faire, selon l'encouragement de la parole de Dieu, pour marcher dans la victoire, il faut focaliser sur les choses d'en haut. Les seules choses réjouissantes, les seules choses bénissantes, les seules choses grandioses, c'est, premièrement, qu'est-ce qu'il y a en haut? On trouve Jésus qui est là. On trouve aussi du ciel vient les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu, sa parole qui nous guide, toutes les révélations qu'il nous donne, les touches de son esprit, tout ce que Dieu peut nous communiquer. Il faut regarder aux choses d'en haut. Parce que si on regarde juste aux choses de la terre, on t'offre pas. Parce que des choses de la terre, c'est nos problèmes, nos difficultés, nos combats, puis là, il y a de quoi se décourager. Il faut regarder en haut. Colossiens 3:1 nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Fait que, en tant que chrétien, il faut apprendre à focusser à la bonne place. Focusser, c'est un mot anglais. Focaliser. On regarde à Jésus et tout ce qui vient de Jésus, ses grâces, ses bénédictions, sa parole, ses promesses, ses touches de son esprit, de sa puissance, de ses dons, de ses guérisons, peu importe ce qui sort d'en haut, les bénédictions de Dieu, il faut regarder en haut, puis il faut rester attaché aux choses d'en haut. Avoir les yeux sur Jésus, imiter sa foi et combattre contre le péché. En Hébreux 12, les versets 1 et 2, ça nous exhorte exactement dans l'idée que je suis en train de vous dire là. Nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Fait que c'est pas à Dieu que cette phrase-là s'adresse. C'est pas au Saint-Esprit que ça s'adresse. Ça s'adresse à nous, les combattants. C'est nous qu'il faut décider de rejeter nos fardeaux. Y a-t-il des choses qui nous écrasent aujourd'hui, qui nous abattent, qui sont lourdes, fatigantes, on est épuisé, on n'est plus capable. Faut s'en débarrasser. Si c'est votre mari ou votre femme, débarrassez-vous-en pas. Priez plutôt pour elle. Vous pouvez vous débarrasser de votre fardeau à Jésus, mais pas de votre femme, ni de vos enfants, ni de ceux qui sont là. Il faut continuer à les aimer. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et une fois que tu es débarrassé de tes péchés et tes fardeaux, tu vas être capable de courir. Il dit, courons avec persévérance. C'est dur de courir quand tu as des fardeaux sur tes épaules. C'est dur de courir si tu as des péchés qui pèsent sur ta vie. Mais si tu veux apprendre à courir dans le Seigneur puis courir dans la bonne direction, il faut premièrement se débarrasser. Puis là, on court dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Il faut regarder en haut, frères et sœurs. On faut avoir nos regards sur Jésus. Puis si je vais apprendre comment est-ce que Jésus a pris ça, cette vie-là, lui, mais lisons les évangiles. Vous allez voir comment est-ce qu'il a été son combat, ses luttes, ses réponses, ses manières qu'il réagit dans les situations. En regardant les yeux sur Jésus, tu vas apprendre comment réagir. Ayant les regards sur Jésus, c'est possible de courir, puis de courir dans la bonne direction. Quand ça qu'on arrive dans notre vie, qu'on court dans la mauvaise direction? Quand on n'a plus les yeux sur Jésus, là on court après d'autres choses. Ça peut être n'importe quoi qui est dans ce monde, n'importe quoi qui nous tente, qui nous attire, qui nous fait voir, oh, ça a de l'air. Là on court après ça. Non, on n'a pas à courir après rien. Il faut courir en ayant les yeux sur Jésus. Tu es sûr de courir dans la bonne direction. Jésus, c'est le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, bien, il a souffert la croix, il a méprisé la honte, puis il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus, quand il était sur la terre, il a souffert. Dans Isaïe 53, ça parle de Jésus, ça nous dit « homme de douleur, habitué à la souffrance ». Jésus a souffert. Les apôtres ont souffert. Les disciples ont souffert. 2000 ans plus tard, nous sommes des disciples. Il faut s'attendre que ça ne sera pas facile. Jésus l'a dit aussi, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer dans le royaume. Je ne sais pas si c'est peut-être Paul qui a dit ça. Mais il dit d'avoir les yeux sur Jésus. Puis Jésus, là, il regardait en haut. Quand il était sur la terre, dans ses souffrances. Il regardait en haut, puis il dit, en vue de la joie qui lui était réservée. Là, il a subi ses souffrances. Il avait les yeux en haut, en vue de la joie qui l'attendait. Quelle était cette joie, vous pensez? Il regardait à Dieu son Père, le fait qu'il savait qu'il était pour aller le rejoindre. Puis il y a eu d'autres joies par la suite, qu'on le voit dans la parole de Dieu. Il dit à chaque fois qu'un homme se convertit, mais il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un pécheur se repent, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Qui est devant les anges de Dieu? C'est Jésus. Jésus est dans la joie quand un homme se convertit. Jésus, si on reprend ce passage-là, il regarda la joie qui lui était réservée, puis il savait que ça sauverait d'autres personnes. Il savait qu'on serait sauvé, qu'on accepterait son salut, puis qu'on se retrouverait avec lui. Puis ça créa de la joie dans Jésus. Ça lui a donné du courage pour passer à travers de ses épreuves dans le chemin resserré que lui devait passer. Il fallait qu'il prenne sa croix, puis il nous demande à notre tour de la prendre. Fait qu'il faut avoir les yeux sur Jésus. Vous n'êtes pas seul à souffrir dans votre vie chrétienne. S'il y en a qui n'ont pas commencé à souffrir dans leur vie chrétienne, peut-être vous ne parlez pas assez de Jésus. Jésus a dit, quand on parle de lui, il dit, c'est comme si tu es en train de parler, tu parles dans le nom de Jésus, puis tu parles dans le nom de Dieu le Père. Il dit, quand tu parles, s'ils te reçoivent, ils me reçoivent, puis ils reçoivent celui qui m'a envoyé. Puis s'ils vous rejettent, ils rejettent Jésus, puis ils rejettent Dieu le Père. Peut-être qu'en rentrant plus dans le combat, vous allez vous apercevoir qu'il y a des répercussions, des paroles, des situations qui peuvent nous arriver. Puis je vous souhaite pas que ça arrive, mais ça va arriver à tout le monde de vivre des problèmes à cause de leur foi. Puis Dieu nous demande, regarde à Jésus, regarde comment est-ce qu'il a traversé sa vie, puis imite sa foi. Jésus marchait par la foi lui aussi. Il n'était pas dans le ciel, il était sur la terre, dans un corps humain, pareil comme nous, puis il entendait son Père lui dire, fais ci, fais ça, dis ça, puis il obéissait, il avait les révélations à mesure. Ce qu'on a besoin par la suite, une fois qu'on a compris qu'il fallait avoir les yeux sur Jésus pour nous donner du courage, puis nous donner un désir de vouloir avancer, on a besoin de comprendre quel est le plan de Dieu. Savez-vous le plan de Dieu pour chacun de vous? Il y a des choses qu'on peut savoir d'avance. Oui, je le sais, il y a des choses que je sais déjà. Puis il y a des choses que tu vas les apprendre au fur et à mesure dans le développement de ta vie chrétienne. Il y a des affaires que tu ne sais pas quand tu t'es converti. Tu ne sais pas dans tout ce que tu t'engages quand tu acceptes Jésus. Mais il y a des choses de base qu'il faut déjà que tu commences à apprendre. À apprendre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Il faut que tu l'apprennes. Savez-vous que nous sommes destinés à avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu? C'est notre destin. Quand que tu viens au Seigneur, c'est déjà dans le plan de Dieu que tu deviennes un connaissant de la parole de Dieu, que tu reçoives des révélations, apprendre à connaître ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas, pour que tu saches dans quel chemin marcher, puis quelles sont les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Afin de connaître la volonté de Dieu, tu as besoin d'avoir cette révélation-là. Y a-t-il quelqu'un qui aime recevoir les révélations de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui aime... Ouh, je viens de lire ce passage-là, il m'a frappé. Je suis béni de ce que je viens de lire dans ce passage-là. Ou j'ai entendu quelque chose dans la prédication, puis ça a touché mon cœur, ça m'a fortifié. Mais c'est des perles, c'est notre trésor. Toutes les révélations qu'on a de la parole, c'est des bénédictions que Dieu nous donne. Parce qu'on est béni au bout de pouvoir connaître les choses de Dieu. Parce que c'est pas révélé à tout le monde. C'est révélé spécialement à ceux qui ont été appelés puis qui ont répondu à l'appel. C'est qui, ça? C'est nous. Soyons reconnaissants pour chaque révélation qu'on comprend. C'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. Amen. Dans Éphésiens 1, les versets 8 et 9, ça nous dit, « Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. » C'est extraordinaire. C'est selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu avait déjà décidé qu'il nous révélerait sa parole par son esprit. C'était déjà dans son plan avant que la création soit faite. Puis si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il vous a appelé, puis il vous a amené à comprendre, puis là vous avez accepté le Seigneur dans votre vie, puis là vous continuez à recevoir toutes ces sagesses, puis ces intelligences, ces révélations, ces connaissances, puis il continue à vous bénir, puis c'était prévu depuis la fondation du monde qui vous amène dans un état de recevoir ce qu'il veut vous communiquer. Merci Seigneur. Après ça vient une autre étape dans notre vie chrétienne. Si on veut marcher dans la victoire, il faut que tu aies les yeux sur Jésus, il faut que tu reçoives la révélation, il faut que tu saches où tu t'en vas. Puis après ça, il faut que tu te mettes à croire à ta nouvelle identité en Jésus. Si tu ne sais pas qui tu es et qu'est-ce que tu peux faire dans ce monde pour changer les choses, mais si tu ne sais pas, tu ne pourras pas rien faire. Il est important que nous croyions à notre nouvelle identité. Quand on reçoit les révélations de sa parole, il faut grandir dans nos convictions. Faut que tu arrives à être convaincu de ce que tu es. Tu es une nouvelle créature. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu marches, tu es un soldat de Jésus-Christ. Amen. Le savez-vous?
Oui.
Vous êtes des représentants de Dieu sur la terre, des ambassadeurs.
Amen.
Gloire à Dieu. On commence à apprendre notre identité. Il faut que vous le sachiez. Parce que j'avais un rôle à faire avec cela sur cette terre. Tu veux marcher dans la victoire, tout est accompli en Jésus, faut que tu les prennes ces choses-là que Dieu t'a données, puis que tu t'équipes, puis tu le sais qu'est-ce que tu as, puis tu commences à l'utiliser. Mais faut que tu sois convaincu. Si t'es pas convaincu, là, tu marches dans ta vie chrétienne dans des doutes, l'ennemi le voit que tu es dans des doutes. Il ne te voulait pas confesser les versets de promesses, de paroles. Il ne prend jamais autorité dans le nom de Jésus pour le chasser. Lui, ça ne fait plus peur, là. Il peut agir sur toi et t'entraîner comme qu'il veut, ou tu ne réponds plus aux attaques de ta chair, des tentations de ta chair. Tu ne demandes pas à Dieu de t'en délivrer, puis tu ne dis plus non à certaines situations. Fait que tu embarques dans tous les péchés que ton corps t'emmène. Si tu n'as pas de conviction de où est-ce que tu t'en vas, tu vas tomber dans tous les péchés qui vont se présenter, que ce soit à cause de ta chair, à cause du monde ou à cause du diable. Il faut grandir dans notre conviction et croire quel est notre rôle que nous avons aujourd'hui dans ce monde. Dans 2 Timothée, le verset 3 verset 16, ça nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Fait que le livre que nous avons, là, c'est de l'inspiration de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est de l'inspiration de Dieu. Puis toute l'Écriture est inspirée. C'est Dieu qui a donné les pensées aux gens qui est en train d'écrire. Puis ça, c'était pour un but. C'était utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le point que je vous donne, je vais peser ce matin. C'est un livre inspiré de Dieu dans le but de vous convaincre. Pas juste convaincre d'accepter Jésus. Il faut que vous soyez convaincus de votre nouveau rôle que vous avez en Jésus. Si vous voulez marcher dans la victoire, il faut que vous soyez pleinement convaincus. Il faut arrêter de douter, là. Nous sommes des enfants de Dieu, des représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes des soldats de Dieu, équipés avec toutes les armes de Dieu. Puis nous pouvons par la grâce de Dieu, faire des changements dans ce monde. Le changement commence dans notre vie, mais après ça, quand tu parles de Jésus avec foi, conviction, puis tu n'en parles de la bonne façon parce que tu l'as compris, tu peux amener d'autres personnes à ce que leur vie soit changée, transformée, puis qu'ils soient sauvés. Après ça, quand tu as compris qui tu es, tu commences à combattre. Tu commences à prier, à intercéder. Parce qu'il y a des choses, tu veux que ça change. Tu n'acceptes pas les situations, toutes les situations qui t'arrivent, les tentations, les épreuves, les combats, tout ça. Tu n'acceptes pas ça, tu dis, ah, oh, mais si c'est la volonté de Dieu, puis là, on s'en va, puis on mange des coups tout le long de notre vie. Il faut savoir qu'on a un accès devant le trône de grâce. On a un accès direct, une connexion directe. Pourquoi qu'on a une connexion directe? Parce qu'on est déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est déjà là devant Dieu, devant Jésus, assis là. Puis quand on prie, qu'on intercède, les requêtes qu'on fait, les prières qu'on fait, c'est directement présenté à Dieu. Puis en plus de ça, c'est la plupart de toutes nos prières, à part quand on prie pour nos convoitises charnelles, on va le voir en étudiant le livre de Jacques, mais quand tu pries pour les choses qui sont selon la volonté de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui te conduit dans les prières à présenter à Dieu le Père des prières dirigées par l'Esprit de Dieu. C'est des prières entendues par Dieu, c'est des prières exaucées. Les prières entendues par Dieu, c'est des prières exaucées. Fait que là, on va commencer, en tant qu'enfant de Dieu, à vouloir que les choses changent. Tu connais ton rôle, tu connais la parole de Dieu, tu connais les versets, tu connais les promesses. Là, tu vas commencer à prier pour que les choses changent. Tu veux de la victoire dans ta vie, tu veux la victoire sur ta chair, tu veux la victoire sur le monde ou sur les attaques du diable. Commence à prier. Crois que tu as le droit de prier, puis crois même que c'est ton devoir de prier. Nous sommes des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Puis les sacrificateurs, c'est des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Il était là pour présenter les hommes à Dieu, puis après ça, il présentait Dieu aux hommes. Il explique la parole, puis en même temps, il prie puis il intercède. C'est ça notre rôle, on est intermédiaires. Faut commencer à prier. Prier pour nous pour commencer, puis prier pour ceux qui nous entourent. On veut que les choses changent. On veut remporter des victoires. Dans Romains 4, le verset 19 à 21, ça nous parle d'Abraham. Quand il avait reçu la promesse qu'il y aurait un descendant, puis lui, il savait qu'il était sa femme était stérile, puis lui, il était avancé en âge. Quand il y a eu la promesse, il était déjà avancé en âge. Je pense qu'il y avait alentour de 70, puis il a eu l'enfant à 99 ans. Puis sa femme n'avait jamais eu d'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas essayé, mais il avait essayé, mais elle ne tombait pas enceinte, elle était stérile. Dans Romains, au chapitre 4, le verset 19 à 21, ça nous dit, regardez bien comment est-ce que Abraham a marché dans la prière, dans la foi aux promesses. Sans faiblir dans la foi, ça c'est Abraham, il parle d'Abraham. Il ne considérait pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, puis que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle en avait 90. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, il a donné gloire à Dieu, puis ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Là-dedans, tu as un exemple parfait de quelqu'un qui connaît son Dieu, qui connaît que son Dieu au point de vue que quand Dieu fait une promesse, c'est sûr que ça va arriver.
Amen.
Abraham n'a pas douté par incrédulité, que ça nous dit. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on doute sur les promesses de Dieu, c'est parce qu'on est des incrédules. Des fois, on lit les évangiles, puis Jésus, il traite de un de ses apôtres d'incrédule. Pourquoi t'as douté? Moi, quand j'ai joué l'histoire que Pierre, il débarque de la barque parce que Jésus, il a dit, viens. Pierre débarque, puis il a marché sur l'eau. Il a marché quelques pas. Après ça, il a commencé à regarder autour, puis là, il a coulé. Tout le monde dit, tout le monde, en tant qu'humain, normalement constitué, on focaliserait, hey, il a marché sur l'eau, lui, avec. Il a fait 3-4 pas. Jésus n'a pas regardé le bout qui a marché. Jésus a critiqué le bout pourquoi il a douté. Parce que quand il a douté, il a coulé. Nous, on s'est encouragés, on en a fait quelques-uns des pas. Mais c'est quand tu coules, c'est parce que tu as douté. Jésus les a reproché leur incrédulité. Fait que nous, en connaissant notre rôle, on connaît la volonté de Dieu, on demande à Dieu de nous donner la conviction. Puis on croit en ses promesses.
Amen.
On croit en ses promesses, on les saisit, on les confesse comme Abraham a fait, puis avoir une pleine assurance que ce que Dieu a promis, il est capable de le faire. Puis ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui reçoit les exaucements de prière. Ceux qui doutent n'obtiennent pas rien. Il dit, comme Jacques, ça dit dans Jacques, on l'a vu dans l'étude, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, elle lui sera accordée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, parce que si quelqu'un doute, il est comme les flots de la mer agités par les vents. Il dit qu'un tel homme ne s'imaginera, qu'il s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, parce que c'est un homme irrésolu et inconstant. Si on se met à douter ses promesses quand on les demande, on est irrésolu et inconstant, puis qu'on s'imagine pas qu'on va le recevoir. Ceux qui reçoivent, c'est ceux qui ont une ferme assurance, comme Abraham. Il dit « sans faiblir dans la foi ». Dieu veut qu'on se maintienne dans la prière, qu'on garde la foi, qu'on demeure dans l'attente des délivrances du Seigneur selon ses promesses, sachant que Dieu y est fidèle. Le savez-vous que Dieu est fidèle? Puis Dieu ne peut pas être infidèle, parce que Dieu y est juste, puis il l'a promis d'être fidèle. Il dit « si on est infidèle, il demeure fidèle ». Mais si on le renie, il nous reniera. Abraham, lui, il croyait en son Dieu, puis en plus de ça, moi, ce que je trouve remarquable, c'est sur quel verset de la Bible que Abraham s'est appuyé. Il n'y avait aucun écrit à cette époque-là. Il avait entendu la révélation de Dieu, puis il s'est accroché à cette promesse-là. Ça ne lui a pas été dit qu'une fois qu'il y aurait un enfant. Ça lui a été dit 2-3 fois. Il y a des anges même qui sont venus lui parler. Dieu lui a révélé, puis lui, il avait une pleine assurance. Puis il s'en foutait que son corps était usé. Il était sûr qu'il était pour être exaucé. Savez-vous que Jésus peut encore nous secourir? Secourir ceux qui sont tentés. Dans Hébreux 2,18, ça nous dit, en parlant de Jésus, « Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Le savez-vous que Dieu peut vous secourir lorsque vous êtes tentés? C'est important de le savoir, c'est une promesse de Dieu. On veut avoir la victoire sur notre chair, sur le monde, puis sur le diable. Faut que tu saches que Dieu peut te secourir. Faut que tu saches que Jésus peut te secourir. Lui, il a été tenté en toutes choses, puis il a eu la victoire. Puis il sait comment que ça marche. Il est capable de te donner la victoire. Tu veux-tu la victoire? Voulez-vous la victoire? Et il faut avoir l'assurance que le Seigneur, il va me sortir de cette situation-là que je vis. J'ai une tentation, j'ai une épreuve, j'ai un combat, j'ai des luttes, j'ai des difficultés, j'ai des souffrances. Peu importe ce que vous vivez, il n'y a pas de problème trop gros pour Dieu. Il est vivant, il est ressuscité, puis il est vivant au siècle des siècles. Puis tout pouvoir lui a été remis. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il dit, la seule chose qui peut limiter Dieu, c'est votre incrédulité. Si vous doutez, si vous ne croyez pas, il dit, tout est possible à celui qui croit.
Amen.
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 Donc, il faut apprendre à confesser nos convictions. Il faut que tu y crois, puis tu confesses ce que tu crois. Par la foi, tu les confesses avec foi. Tu ne doutes pas, Dieu a promis ça, même si ça semblerait... Oh, c'est impossible, ça arrive. Faut pas que tu te dises c'est impossible parce que rien n'est impossible à Dieu. Abraham, c'était impossible qu'il ait un enfant. À 99 ans, puis ta femme a été stérile toute sa vie, peut-être qu'il avait même pas de règles. Puis c'était le signe pour lui montrer qu'elle était stérile. Peut-être que c'est impossible, elle avait même pas d'ovulation. Tu sais, puis là, tu te dis quand est-ce que... T'attends par la foi, puis t'es sûr que Dieu est capable de l'accomplir, malgré que tout semble impossible. Bon, on ne regarde pas aux œuvres impossibles, on regarde au Dieu du tout possible. Amen.
Amen.
Faut confesser nos convictions par la foi, puis des convictions bibliques, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est pas la parole positive qu'on prêche, là. Les pensées positives, c'est pas biblique, ça, là. Parce que dans le monde, ça te dit « pense positif, ça va t'arriver », c'est faux. C'est archi faux. C'est pas notre capacité de, j'imagine des choses, puis là tu vas concevoir des choses, puis là tu vas faire apparaître ces choses-là. C'est pas ça du tout. C'est Dieu t'a promis quelque chose, puis tu t'accroches à une déclaration qui est écrite noir sur blanc. C'est pas pareil. Tu n'es plus là pour accomplir tes buts à toi, tu es là pour accomplir le but de Dieu. Tu t'es donné à Dieu pour obéir à Dieu. C'est le chemin de Dieu qu'on veut et non plus notre chemin. Fait que faut que tu marches par conviction, par la foi, puis lorsque tu es tenté, attaqué, quand l'ennemi essaie de nous détruire dans nos pensées, mais faut que tu sois pleinement persuadé que Jésus peut t'en sortir. Dans Colossiens 4:12, ça nous dit Épaphras, qui est un compagnon de service avec Paul, qui est dévot, il vous salue. C'est un serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. C'est pas beau, ça? Ce gars-là priait pour les autres frères et sœurs dans la foi, pour que ces gens-là deviennent parfaits et pleinement persuadés. Pleinement persuadés, ça veut dire conviction. T'es convaincu, il n'y a aucun doute. Quand tu avances puis tu confesses des choses, t'es basé sur des versets, il n'y a rien pour te changer de ton idée. T'es un à cheval ces versets. C'est ça que t'es. À cheval, c'est un verset. C'est ce que Dieu veut nous amener, chacun de nous, à être pleinement persuadé. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà eu des doutes? Moi, je lève ma main. J'ai déjà eu des doutes. Puis vous n'avez pas besoin d'être gêné de dire que vous avez déjà eu des doutes. Ça, c'est impossible que vous n'ayez pas déjà eu. C'est qu'il faut que tu arrives à renverser les doutes. Il faut que tu saches que tu as un doute. Si tu n'as jamais eu de doute, j'en doute. Tout le monde a eu des doutes sur ce que Dieu a déclaré. Que ce soit avant notre vie chrétienne, non seulement qu'on avait des doutes, mais on riait de ça. On servait des versets pour faire des farces. C'est un sujet de moquerie. Mais à un moment donné, par exemple, quand tu commences à expérimenter, t'as eu la foi, t'es convaincu que t'es un pécheur, t'acceptes Jésus, puis tu vois des miracles qui se passent dans ta vie, puis les exaucements de prière, il y a quatre choses qui se passent de surnaturel. C'était pas là la semaine d'avant. Puis là, c'est là, parce que c'est Dieu qui est en train d'agir. C'est normal, c'est la nouvelle nature, les choses anciennes, c'est passé. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Fait que là, t'as une persuasion qui commence à se bâtir. Tu t'en viens convaincu, peut-être pas sur tout, parce qu'il y a des sujets qu'on vit, des épreuves, pourquoi que ça m'arrive, ces affaires-là. Puis on se demande des fois, je suis encore aimé par Dieu, Dieu m'aime-tu encore? Là, on peut avoir même des doutes sur notre position en Jésus. Mais il faut s'accrocher au verset de la parole, parce que c'est notre foi qui fait le changement. Dieu regarde notre foi. C'est pas les circonstances qui comptent, c'est notre foi. Avoir la foi dans ses déclarations. Dieu a dit telle affaire, mais c'est telle affaire que tu as dans ta pensée. S'il dit d'autres choses, c'est l'autre chose que tu prends. Faut baser nos idées, nos visions, nos buts, nos objectifs selon ce qui est écrit sur ton propos. Il veut nous amener à être pleinement persuadés. Vous avez eu des doutes? Moi aussi, j'en ai eu des doutes. Épaphras priait pour que toute la gang de cette église-là puisse être pleinement persuadée. Fait que commençons, si on ne l'a jamais fait, commençons à prier les uns pour les autres pour que Dieu nous amène dans une position pleinement persuadée, convaincue, inébranlable, qu'on ne branle pas dans le manche. Quand tu viens peinturer dans un rouleau puis que le manche est slack, là, ploup, ploup, là, le rouleau se promène d'un bord puis de l'autre quand à chaque fois que tu bouges la manche. Mais à un moment donné, oups, tu beurres l'autre bout que tu voulais pas beurrer. Ça travaille pas bien avec un manche slack. Mais en tant que chrétien, faut pas que tu branles dans le manche. Puis s'il y a du vent sur ce bord-là, tu penches sur ce bord-là. Puis s'il y a du vent sur ce bord-là, tu penches sur ce bord-là. On marche pas au vent du monde. On est basé sur la parole de Dieu, puis c'est du roc. On reste solide, les deux pieds, rentrés avec des racines profondes, puis on reçoit la sève de la parole, puis de l'Esprit-Saint. On se fortifie pour être des arbres qui portent le fruit en leur saison, puis dont le feuillage ne se flétrit point. Puis tout ce qu'on fait réussit. C'est ce que ça dit dans le Proverbe 1. La vie chrétienne, c'est pas quelque chose de passif, qu'on se laisse aller. Oh, si Dieu le veut, on se laissera aller ce bord-là. Si Dieu le veut, là, ça rentre ce bord-là, on est rendu ce bord-là. Puis, comme tu te laisses aller, c'est pas du tout cela, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie active. Tu as des décisions à prendre, tu as des choses à dire oui, puis tu as des choses à dire non. Dans 1 Pierre 3,15, il faut toujours être prêt à faire des interventions. 1 Pierre 3,15, ça dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre. » Êtes-vous prêts pour vous défendre? Êtes-vous prêts à prendre position pour Jésus? Il faut que vous soyez déjà. Si vous rencontrez quelqu'un en sortant de l'église, puis vous n'êtes pas prêts, vous allez rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas prêts, puis là, vous n'y en parlez pas. Si tu es prêt, tu as déjà prié pour ça, tu es déjà dans ta pensée un actif. Aussitôt que tu vas avoir une occasion, tu sautes sur l'occasion, puis tu es content d'avoir eu une occasion, puis tu vas remercier Dieu pour l'occasion que tu as eue. Être actif. Mais Dieu veut nous rendre comme ça, si on veut marcher dans la victoire, il faut être persuadé, puis là, commencer à prendre des décisions. Puis être prêt tout le temps à prendre les bonnes décisions. Puis quand il arrive une tentation de quelque chose qu'on sait qu'on peut être tenté, bien, tu es déjà prêt à la refuser. Lorsqu'on fait face aux tentations, que ce soit du diable, de notre chair ou du monde, par des objets qui nous entourent, notre attraction physique est amorcée par nos convoitises, mais il faut apprendre à résister, à dire non. Faut que tu sois déjà prête que ça peut arriver une tentation. Là, ton corps, il a le goût, là. Surtout, il y a des affaires qu'on sait. La sexualité, aujourd'hui, t'en as à tous les coins de rue. Tu vas sur ton ordinateur, tu rouves, ça m'est arrivé sur Facebook cette semaine, puis dans mon show, ça me marque que quelqu'un a partagé de quoi en m'identifiant. Je vais voir ça, tac, c'est une scène de nudité. C'est une vidéo de pornographie. Même si mon corps, il voudrait regarder, tu t'enlèves ton nom, puis en plus de ça, tu bloques le gars. T'en veux plus de ça. Faut que tu sois déjà là, sinon si t'es pas prête, l'affaire arrive. Tu payes supplé, puis là t'écoutes toute l'affaire. Puis tu te nourris de toute cette pourriture-là, puis les esprits de sexualité sont après toi, puis sont en train de t'enchaîner. Puis après ça, t'as ces idées-là dans la tête, t'es souillé, t'as tes pensées impures. Puis le Saint-Esprit, il est pas bien là-dedans, croyez-moi. C'est l'Esprit Saint, puis nos pensées qui sont rendues toutes polluées par ces vidéos-là qu'on a accepté d'écouter. On a péché volontairement. Il faut se repentir, puis rejeter cela, puis être capable de dire non, puis de bloquer ça. Si t'as pas fait exprès, là, ça t'arrive, mais faut que tu sois prête à être un gars qui est capable de dire non, ou une fille, être capable de dire non à certaines affaires dans notre vie. Tu veux la victoire sur la chair, sur le monde? Dieu nous il a déjà tout préparé pour qu'on soit dans la victoire. Il ne reste qu'à nous de l'utiliser, d'utiliser les moyens qu'il nous a donnés. C'est à nous à prendre les décisions. Il faut que les chrétiens apprennent à renoncer aux œuvres qui mènent à la mort. Les œuvres mortes que ça dit dans Louis II. Mais dans la Bible Sommer, c'est les œuvres qui mènent à la mort. Parce que les chrétiens ils ont crucifié leur chair avec leurs passions et leurs désirs. Je parle des passions et des désirs de péché, là. Galates 5, 24, ça nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Fait que, en ayant décidé de « Mon corps a été crucifié avec Jésus, je suis ressuscité en nouveauté de vie, par la foi, avec conviction, je le sais qu'il y a des affaires, je ne peux pas toucher, puis il faut que je rejette ça. » Il faut imiter Jésus puis les premiers disciples. Ils ont passé par le même chemin. On va dire, mais ça fait 2000 ans de ça. C'était pour ce temps-là. Mais c'était pour ce temps-là, peut-être. Les paroles ont été dites dans ce temps-là. Mais elles sont en cause 100% d'actualité pour notre temps d'aujourd'hui. Des adultères, il y en avait aussi dans ce temps-là. Des impudiques, il y en avait. De la prostitution, il y en avait. Des voleurs, il y en avait. Des menteurs, il y en avait. Tous les convoites, ceux qui convoitent le stock des autres, il y en avait. Des alcooliques, il y en avait. La majorité de tout ce qui était là dans ce temps-là est encore aujourd'hui. Plus, il y a encore plus d'affaires aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi la drogue, puis toutes les affaires. C'est la même affaire, mais plus amplifiée pour certaines affaires. La morale est encore bien plus pire. Dans ce temps-là, il trouvait une femme adultère, il la lapidait. Fait qu'il n'en avait pas gros. Il en avait, mais il n'avait pas gros. Le monde avait peur. Aujourd'hui, il n'y a plus rien là. C'est accepté. Puis il y a d'autres choses qui sont acceptées, qui sont encore pires que ça. Puis que tout le monde, la plupart du monde aujourd'hui, ça ne le dérange plus, mais ça dérange encore Dieu. Fait que Jésus a combattu le diable et ses démons à plusieurs reprises. Les disciples avec, ça nous le dit dans Marc 1, 34, il chassa beaucoup de démons. C'est un combat continuel qu'il y avait. Les premiers disciples, ils ont fait la même chose, ils ont eu à résister aux esprits et aux démons qui voulaient les bloquer dans leur évangélisation. Jésus aussi a eu de la résistance avec le monde qui l'entourait. Il y en a eu, lui aussi, de la résistance. Ça nous en parle dans Hébreux 12, 3. Ça nous dit à nous, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. » Il dit, « Considérez ça, toute l'opposition que Jésus a eue. » Puis nous aussi, afin qu'on ne se lasse pas, l'âme découragée. Mais nous aussi, il faut comprendre qu'on a passé par le même chemin que Jésus a passé. Les apôtres ont été capables aussi de résister aux hommes qui les entouraient. Parce que les apôtres ont essayé des taire, puis de leur dire, « Vous parlez plus. » Ils ont expressément empêché les apôtres de dire, « Vous ne parlez plus en ce nom-là. » Les apôtres se sont-ils laissés influencer? Pas du tout. Il lui dit, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Ça prend-tu du monde décidé? Ça prend du monde persuadé. pleine conviction, qui marche par la foi, c'est mieux de plaire à Dieu que de plaire au monde. Que ce soit le monde, le diable ou notre chair, frères et sœurs, vous voulez la victoire, mais il faut que vous soyez convaincus. Puis vous croyez aux promesses, aux paroles de Dieu. Vous les ayez dans votre bouche, vous en servez pour les confesser. Puis vous allez vivre dans des victoires. Vous allez obtenir des victoires. Dieu va vous bénir. Puis vous allez au-dessus des situations d'attaque puis d'épreuves. Ça ne vous dérangera plus parce que vous allez avoir l'assurance qui était en Jésus. On a une mission sur cette terre. Puis Dieu nous dit de ne pas se relâcher, de continuer à combattre, à persévérer, lui faire confiance, parce qu'on est déjà plus que vainqueur. Dans Romains 8, 37, c'est le dernier verset, ça dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est grâce à qui, si on a une possibilité d'être vainqueur? C'est à cause de Jésus. Jésus qui a accepté d'aller mourir sur la croix, il a versé son sang pour expier les péchés de l'humanité. Tu veux faire partie des élus, tu veux faire partie de ceux qui sont sauvés, tu veux faire partie de ceux qui vont vivre dans le ciel pour l'éternité. Tu as un seul choix, une porte étroite. Il y en a une grande porte qui est bien facile, puis un chemin bien large. Lui, il t'amène à la perdition, mais il y a une petite porte étroite, un chemin qui est resserré, des épreuves, des combats, des luttes, mais tu as une garantie de victoire. Veux-tu être sauvé? Mais pour être sauvé, reçois Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Laisse-le entrer dans ta vie. Mets ta foi, toute ta foi, en lui seul pour être sauvé. Puis avance par la foi dans le chemin qu'il t'a montré, qu'il nous a donné. Ce chemin-là est écrit ici. Avance par la foi, obéis à la parole de Dieu. Donne ta vie au Seigneur, puis laisse-toi diriger par lui. Marche avec lui, puis un jour, tu vas te retrouver avec lui pour l'éternité. Je vais faire une prière pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Ou s'il y a des gens qui auraient abandonné le Seigneur, mais qui voudraient se reconsacrer au Seigneur. C'est la même affaire dans les deux cas. Faut que tu te repentes. Faut que tu demandes pardon au Seigneur pour ton chemin qui est en dehors du chemin de Dieu. Faut que tu demandes pardon, tu confesses ta faute, puis tu dises au Seigneur que tu crois qu'il est mort sur la croix pour te pardonner. Puis si tu es prêt à le recevoir, mais on va faire une prière avec vous pour que vous puissiez le recevoir, puis que vous puissiez vivre cette nouvelle relation-là que le Saint-Esprit veut vous amener pour marcher dans la victoire dans cette vie terrestre. Puis qu'un jour, on se retrouve avec lui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent recevoir Jésus, puis qui veulent se consacrer au Seigneur pour dire, là, je suis assez. J'ai assez marché dans l'égarement. Je veux pas manquer ma shot. Je veux être sûr d'entrer dans le royaume. Si vous voulez cette assurance-là, venez en avant, je vais prier avec vous. Amen. Pour les autres, en attendant, on va prier. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole et tout ce que tu nous enseignes pour notre marche par la foi, puis d'avoir une pleine persuasion, puis en connaissant ta parole parce que tu voulais nous la révéler, mais qu'on nous donnait la victoire. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses qu'on a vues aujourd'hui. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous les révèle. Garde-nous avec une pleine conviction. Puis ceux qui n'ont pas cette conviction-là, Seigneur, affermis ton peuple. Donne une pleine persuasion dans leur cœur, que les gens puissent savoir qui ils sont et ce qu'ils ont à faire dans cette vie. Je te prie pour chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen.